On est prêt, moteur. Pamela, 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Clap Cinéma au Sémaphore avec Jean-Sylvain. Bonjour Jean-Sylvain.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous sommes dans une salle de cinéma.
Voix feutrée, voilà.
Ça ne résonne pas. Louis, à la technique, va être très content. Il ne faut pas dire de bêtises.
Hein. Dans une salle de cinéma parce que, comme on est tout de suite
après
les vacances, il y avait énormément de films pour enfants. Donc du coup, j'avais beaucoup de trous dans l'après-midi. Donc là, on avait un trou aujourd'hui à 16h.
Voilà, donc nous sommes sur les fauteuils rouges dans la salle 4 et nous allons parler cinéma.
Voilà.
Les sorties du 6 et du 13 novembre. Nous avions fait avec Dominique des émissions sur le jeune public. Et on va commencer toujours avec le jeune public, mais les grands aussi. Parce que moi, je l'ai vu hier et c'est une merveille. Flo. Vous aviez dit, il faut absolument voir ce film, mais on en reparle.
Voilà, ouais, coup de cœur, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Donc, plus peur de l'eau, c'est intéressant.
Ouais.
C'est un film découvert au Festival de Cannes qu'on a passé en avant-première pendant les journées de la rentrée, là, le premier week-end de septembre, les journées de fête. On l'a repassé dans le cadre d'un partenariat avec la Maison de l'Europe. À chaque fois, la grande salle 6 était pleine et on a lancé un bouche-à-oreille fabuleux sur le film. Donc c'est un film d'animation qui a eu le prix, je ne me rappelle plus, il a eu le prix de la Fondation Gann au Festival d'Annecy. La Fondation Gann, c'est une fondation d'assurance qui aide le cinéma et les jeunes auteurs depuis très longtemps. C'est un film qui est la particularité du réalisateur qui s'appelle Gins Zilbalodis, pardon.
Lituanien.
Il est de Lettonie. Ouais.
Letton.
Et il fait ses films tout seul.
Oui, j'avais vu le premier. Moi, je connaissais pas son premier film.
Et il avait son premier film, c'était Ailleurs, qu'on avait passé ici. Il fait son film tout seul, et puis après, il demande de l'aide, notamment là, c'est la France et la Belgique, pour, vous savez, faire les décors en numérique, tout ça, qui coûte assez cher, où il faut des gros ordinateurs pour le faire. Mais autrement, tout le scénario, la musique, les dessins des personnages, c'est lui qui fait ça. Et donc, cette histoire de Flo, c'est ce que j'aime bien.
C'est très poétique.
C'est très poétique et c'est une histoire. C'est juste un bout de la vie de ce chat. On ne sait pas ce qui s'est passé avant et on ne sait pas trop ce qui va se passer après. Mais toujours est-il qu'un matin, il se réveille et il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus d'humains sur la planète. Et l'eau monte. Alors, on ne sait pas d'où elle vient, si c'est la mer, la rivière. Ce n'est pas de l'eau violente. Ce n'est pas comme nos amis de Valence. Ce n'est pas des inondations. C'est l'eau monte tout doucement comme ça. Donc, on attend.
C'est très, très haut. Ouais. Hein, tous les colonnes sont englouties.
On a le temps de sauter d'une toit d'une maison à un bateau. Donc voilà, donc c'est l'histoire de ce chat qui se balade sur la planète, qui est aidé par différents personnages animaliers.
Qui ne parlent pas.
Et ça, c'est
à
ça
l'inverse de Disney.
Voilà, les animaux ne parlent pas, il n'y a que de la musique.
Ils sont très expressifs. Voilà. Hein,
tout se fait au dessin, à l'expression, au regard, les ronronnements, les batailles. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc,
la bande sonore est vraiment très, très belle. Hein. Donc, à un moment, j'ai cru qu'il y avait des moustiques dans la salle de cinéma, mais non, c'était dans la bande sonore.
Donc, c'est le grand, grand coup de cœur. Et ça, je pense qu'on l'aura à l'affiche jusqu'à la fin de l'année.
La fin de l'année. Et puis, il y avait des enfants hier après-midi. Moi, je l'ai vu dimanche après-midi. Il y avait des enfants. Et j'entendais qu'ils posaient des questions parce que c'est vrai, parfois, on se demande.
C'est vraiment ce qu'on appelle un film qui va de 7 à 77 ans, ou de 8 à 88, comme vous voulez. Parce que... non, c'est vrai que c'est. Moi, j'ai un souvenir de ce film et puis les réactions des gens sont enthousiastes, quels que soient les enfants, l'âge, donc voilà, ça fait plaisir.
On est emmené ailleurs et puis il y a tout de même des messages, il y a des messages d'amitié, de tolérance,
d'écologie, bien sûr.
C'est assez philosophique, je pense, à cet oiseau qui s'envole, enfin chacun voit ce qu'il veut voir, mais il y a plusieurs niveaux de lecture comme tous les films. Donc vous le recommandez et c'est très très important, bien évidemment, film d'animation. Sauvage continue aussi, je pense, mais on en avait parlé avec Dominique. Et là aussi,
Sauvage, le robot sauvage.
Là aussi, c'est pour tout le monde, hein, ouais, c'est ouais, pas ouais. uniquement pour, pour les enfants. Alors là, qui n'est pas pour les enfants, on va parler d'Anora, hein, qui est déjà sortie.
Qui est sorti le même jour que Flo, on a oui. eu bien de la chance, le mercredi 30 octobre. Anora, c'est le film américain de Sean Baker, Baker qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Je crois qu'il y avait assez longtemps qu'il n'y avait pas eu un film américain qui avait une Palme d'Or. Et c'est l'histoire assez... c'est un film
long.
Vif.
Long. 2h18, moi, ça me...
Non, mais ça, quand c'est long, mais quand c'est bien, c'est pas le problème. Non, c'est un film très speed, très dynamique, qui va à 100 à l'heure. C'est l'histoire d'une jeunesse qui brûle la chandelle par les deux bouts, qui se consume en sexe, en drogue, en alcool, en fête. Et c'est un constat, somme toute, assez... assez triste, je trouve, de la jeunesse américaine. Cette jeune fille, c'est l'histoire donc d'une jeune fille qui s'appelle, le titre du film, c'est le prénom de la jeune fille, Anora, qui est une stripteaseuse de Brooklyn et qui croit un conte de fées arriver quand elle découvre, elle a une pseudo-relation avec un espèce de fils de riche, d'oligarque russe qui habite en Russie et qui croit faire ce qu'il veut. Et cette pauvre fille qui croit encore aux rêves américains, tout ce genre de choses. Alors c'est une critique au vitriol de la société américaine, bien évidemment. Malgré toutes les promesses qu'elle fait dans ce métier-là avec ses copines, ne jamais tomber amoureux de clients et tout ça, elle tombe amoureuse et elle finit par croire à un petit peu l'histoire de Cendrillon. Quoi. Elle finit par croire et s'accrocher à ce jeune garçon qui l'épouse dans un état à Las Vegas. Alors lui, il a pas de problème d'argent, il téléphone, il a un jet dans les 20 minutes. Ben voilà, donc, et toute cette belle jeunesse qui fait l'amour, qui se drogue et qui se prend un mur à partir du moment où la famille de l'oligarque dit stop quand ils apprennent qu'il y a le mariage.
Il a épousé. Et donc, mais après, j'ai lu, je ne l'ai pas encore vu, mais que c'était très comique après, parce que les hommes de main sont plutôt trop méchants.
C'est ça qui sauve un peu, enfin, pas qui sauve, mais qui donne, quand vous parlez de 2h18, au milieu du film, ça redonne de l'intérêt parce qu'il y a beaucoup de personnages secondaires qui donnent un autre mouvement au film qui est simplement sur la relation de tous les deux avec la mère qui arrive, le père. Donc, ça tiraille.
Il y a des rebonds.
C'est quand même, au niveau cinéma, c'est formidable. Ouais. C'est tenu, maîtrisé du bout en bout. L'actrice est absolument génialissime.
Oui, j'ai lu ça. Je la connais pas. C'est Mickey Madison. Et on dit qu'elle est absolument extraordinaire.
Donc, si vous aimez, comme nous, le bon cinéma américain, c'est...
C'est
à voir quand même. Bon. Voilà. Et puis encore une fois, c'est quand même pas en filigrane. Vous disiez tout à l'heure, il y a toujours une seconde lecture sur les films. C'est quand même une sacrée étude au vitriol du libéralisme américain et bien évidemment russe avec ces oligarques qui se croivent sous prétexte qu'ils sont pleins de fric.
Et je rappelle que nous enregistrons le 4 décembre pour cette émission du 6.
Et 4 novembre,
et que demain, ce sont les élections.
Et que nos amis américains ont intérêt à faire le bon choix.
Oui, c'est pas certain. Hein. Enfin, on va voir, en croisant les doigts, parce que ce Trump au pouvoir, alors là... Bon, allez, passons. Donc ça, c'était sorti déjà, et je vous avais dit qu'on parlerait des sorties du 6 novembre, où il y a Au boulot, l'affaire Nevenka, Monsieur Aznavour, Trois amis, Voyage à Gaza.
On va parler un peu de tout rapidement pour ce qui est de Monsieur Aznavour. Pardon. Le film est sorti il y a une quinzaine de jours.
C'est un gros succès, quand même.
Un gros succès. Et c'est la nouvelle mode maintenant. Les gros distributeurs ne veulent plus sortir leur film dans les salles à essai. Après Le robot sauvage, sur lequel on a été obligé d'attendre 3 semaines. Monsieur Aznavour, 15 jours. Le comte de Monte Cristo, cet été, on a été obligé d'attendre 1 mois et demi. L'amour ouf, qu'on ne peut toujours pas avoir. Donc voilà, on parlait des riches tout à l'heure pour Amora. Anora, ben voilà, les riches distributeurs, les riches exploitants se tiennent les coudes pour que un certain nombre, enfin toutes les salles à essai n'aient pas accès. C'est parce que c'est pareil à Montpellier, à Nantes ou à Perpignan.
Mais je pense que les fidèles des arts d'essai attendent que vous le passiez en arts et essais. Ouais. Alors tout le monde salue la prestation Son nom n'échappe, pourtant je ne connais que lui.
Adetar Rahim.
Ouais. C'est vrai que j'ai vu la bande-annonce hier. C'est vrai que c'est assez bluffant. Et puis bon, quand on aime Aznavour, quand on aime ses chansons...
Oui, je crois que ça fait, pour les fans d'Aznavour, ça fait plaisir de retrouver des moments qui ont partagé, qui ont...
C'est très linéaire. C'est du début jusqu'à la fin. Voilà. C'est bien. On aime Aznavour, mais on n'a pas choisi de passer la bande-annonce d'Aznavour parce que... On en parle beaucoup. On va plutôt passer la bande-annonce de Trois Amis. Hein, j'ai vu la bande-annonce aussi hier. Et donc, on l'écoute et puis on en parle après.
Écoute, des aventures, j'en ai déjà eu et ça me fait vraiment pas rêver. Tu vois, c'est un peu comme l'escalade. Voilà. Bon, y a des gens qui adorent ça. Et ben moi, j'ai le vertige.
T'as plus envie de... j'ai jamais envie de faire l'amour avec moi.
Alors moi, s'il faut te dire la vérité, j'ai jamais été amoureuse d'Éric.
C'est vrai, mon amour.
Et toi, mon cœur.
Il croit que je l'aime exactement comme lui-même. On dîne ensemble demain soir, t'as pas oublié?
Mais non, demain, je peux pas.
Rebecca vient pas?
Ah non, tu vois encore Monsieur X?
Monsieur X.
Je l'appelle comme ça parce qu'il est marié. J'ai l'impression que ça la gêne.
Waouh.
Je fais grossir, moi, hein, si je prends deux petits déj chaque matin.
Ça t'irait très bien d'être plus gros.
Ça te plairait?
Ouais. Il y a des gens qui se séparent et qui retrouvent vite quelqu'un.
Oui, il y a aussi des gens qui rencontrent jamais plus personne. Hein. Tu peux encore faire un geste pour me retenir, là.
T'as toujours aucune nouvelle?
Vous êtes bien la compagne de Monsieur Victor Arzouillon?
Je sais pas si vous me reconnaissez.
Bah oui, on s'est salué au collège.
Tu sais, je trouve pas ça juste que tu te sentes coupable. C'est pas une faute de quitter quelqu'un.
T'es pas condamné à plus avoir d'histoire, hein? J'ai peur de faire encore du mal.
Enfin, tu vois, si Eric m'a menti, ça veut dire qu'il est allé voir quelqu'un d'autre, non?
Ouais.
Alors, sur Radio Alliance Plus, nous continuons avec Jean-Sylvain au Sémaphore. C'est sorti du 6 novembre. Vous avez entendu la bande-annonce de Trois Amis. La bande-annonce m'a plu parce que, d'abord, il y a Camille Cotin, que j'aime beaucoup. Il y a aussi, je cherche son nom, Sarah Forestier. J'aime beaucoup. Ouais. Et la troisième, que j'aime bien. Je trouve qu'elle n'est pas aidée par sa coiffure. Mmh. Enfin, ça, c'est un détail, mais une très bonne actrice, Inda Herr.
Détail féminin, j'allais dire. Sa coiffure, je m'en contrebalance le coquillard.
Ah non, mais moi, je l'ai vue dans des films où elle avait des cheveux longs. Mmh. Là, je trouve qu'en cheveux courts... Bon, écoutez, hein, restons dans la futilité. Alors, Trois Amis, vous l'avez vu.
Trois Amis, c'est...
C'est de Mouret.
C'est Mouret, donc Emmanuel Mouret, on connaît et on retrouve son style, sa... Pour moi, une des grandes qualités d'Emmanuel Mouret, c'est sa qualité de dialoguiste. Mm. C'est-à-dire que les dialogues sont écrits d'une manière extrêmement bien ciselée, ça fuse. Et quand on a des actrices, effectivement, comme les trois que vous avez citées, qui sont loin d'être des manchots en termes de cinéma. Voilà, alors c'est l'histoire de trois copines, comme s'appelle le film, trois amis. Et comme toujours dans chez Mouret, il y a des histoires
d'amour
qui vont, qui vont, qui reviennent, de trahison. Voilà. Donc grosso modo, c'est une des trois copines qui couche avec le mari de la seconde. Et voilà, donc ça entraîne comme ça des situations un peu rocambolesques. Et c'est jouissif parce qu'il y a Vincent McCain qui vient faire le mari délaissé. Enfin voilà, il y a plein de...
La bande-annonce m'a interpellée parce que je trouve que ce sont des femmes modernes et qui s'assument. Camille Cotin, dans l'extrait, dit « Moi, je l'aime plus, en fait, mon mari, mais bon...
» Ouais, je reste habituée. Voilà. Et après,
donc,
voilà, donc c'est la situation de la femme. Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on a le droit de coucher simplement? Ou est-ce qu'on s'autorise? Qu'est-ce qu'on s'autorise en tant que femme maintenant? Voilà. Donc c'est des questionnements qui sont effectivement...
Oui, mais qui sont d'actualité. Voilà. La société évolue et le couple évolue. Les hommes, j'espère qu'ils évoluent. Donc... Il y a encore beaucoup de choses à faire. On est au jour où la jeune femme là, s'est mise en sous-vêtements en Iran. Donc je me dis qu'il y a tout de même, il y a toujours moyen de se raccrocher à l'actualité.
Bien sûr qu'il y a toujours moyen, mais c'est vrai que je pense que, ouais, là vous parlez d'Iran, il y a toujours ce merveilleux film Les graines du figuier sauvage qui est à l'affiche encore pendant un moment, et c'est vrai que c'est une manière aussi de soutenir la culture et la situation de la femme en Iran. On sait de toute manière que la culture, que ce soit le cinéma, le théâtre, mais a besoin de gestes forts aussi pour le suivre. Voilà. Donc là, on est moins dans le côté vindicatif avec trois amis, mais on est quand même dans l'envie de femme de réfléchir et de ne pas faire n'importe quoi, des suiveuses, hein, si vous voulez, de mari dans leur vie. Et ça, c'est quand même... C'est la patte aussi d'Emmanuel Mouret. Les femmes sont amoureuses, mais se posent des questions sur l'amitié avec d'autres femmes, sur la relation avec leur mari. Et ça, je trouve que c'est... Et ça, il le fait merveilleusement bien.
Je crois que c'est très, très bien. On va parler aussi de Voyage à Gaza. Alors là, on est plus du tout dans le même registre. On est dans l'actualité.
Mais même si le film a été tourné les années de 2018. Donc voilà, c'est un film, l'histoire d'un documentariste qui revient à Gaza et qui voit la situation de Gaza. Alors malheureusement, elle est bien pire avec le bombardement systématique du gouvernement israélien sur cette population. Donc c'est un témoignage. Effectivement, il faut soutenir le peuple palestinien.
Ce soir, le 6 novembre, à 18h45, il y a une présentation avec l'association...
Je précise bien le peuple palestinien. Et pas ces fadas du Hamas qui sont aussi fadas que ceux d'en face.
Le peuple palestinien. Alors, ensuite,
deux mots pour... on a parlé de ça. J'aimerais bien juste dire deux mots de l'affaire Nevanka, qui est un film espagnol d'Isier Boliain. Elle est venue, il y a quelques jours, présenter son film en avant-première. Elle était invitée au Festival de Montpellier, Festival du film méditerranéen. Elle nous a fait la gentillesse de faire un crochet par Nîmes. On parlait tout à l'heure de trois amis, de films de femmes. Et là, c'est un film qui finit en film de procès. L'histoire d'un harcèlement d'une employée par son patron. Isier Boliain, on la connaît très bien. C'est la femme du scénariste de Ken Loach, qui est venu à plusieurs reprises au Sémaphore, invité par nos amis anglais. Donc voilà.
Et irlandais.
Et Isier Boliain est une femme qui a...
C'est la première affaire MeToo de l'Espagne.
Isier Boliain, une femme de conviction qui a des choses à dire et il faut la suivre impérativement dans ses demandes. Troisième chose, juste, on concerne les femmes, mais alors là, plutôt la bêtise des riches. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette Sarah Sadelman sur les plateaux de télévision qui hurlait que les gens, les chômeurs étaient des incapables, des feignasses et des machins. François Ruffin, aidé de Gilles Perret, l'a pris au mot en lui disant échangeons votre situation avec la nôtre. Voilà. Et ça, c'est filmé. Donc, la petite Sarah se met au boulot, gagne 1 300 euros par mois le prix du SMIC, et elle a bien du mal à joindre les deux bouts pendant un mois. Donc,
Je vois qu'elle s'achetait des vestes paillettes à 2 800 euros. Quand vous gagnez 1 000 euros par mois, c'est un peu compliqué. Oui, ça donne envie de le voir, ce film. Mais en fait, c'est les sorties du 13.
C'est nos amis Ruffin et Perret, toujours au vitriol, c'est bien.
Alors, nous allons passer aux sorties du 13 et on va écouter la bande-annonce. On va commencer par Une part manquante.
Pourquoi la nanny c'était le nom ?
Comment t'es passé de chef cuistot à taxi ?
C'est ma femme qui a enlevé ma fille.
Ici, c'est le premier qui prend l'enfant qui a la garde.
Elles sont parties, mais je pouvais pas accepter, tu vois, et... Depuis 9 ans,
je me suis mis à chercher Lily un peu tout le temps, tu vois. Le jour, la nuit, partout, dans tout le pays.
Konnichiwa.
Domo.
La stabilité de l'enfant, c'est qu'il voit ses deux parents,
ouais,
c'est pas ça?
Pas ici.
Papa, j'ai retrouvé Lily.
Jérôme, c'est la 10e fois que tu me l'as fait, celle-là.
Je sais.
C'est Lily, putain! Papa!
Tu
Si Lily ne sait pas tout ce que tu as fait pour la retrouver, je te suggère d'aller lentement. Il t'a dit quoi?
C'est que j'aurais dû faire il y a 9 ans.
Tu vas pas pouvoir continuer à faire le taxi sans lui dire qu'il t'aime.
Elle t'a oublié. Steven ne connaît ni quoi.
J'ai peur de la perdre.
Je peux pas divorcer, sinon je vois pas ma fille. Je veux pas.
ずっと日本にいたんだ。
リリーのことを探してた。
Donc, pour les sorties du 13 novembre, nous allons parler donc d'une part manquante dont nous venons d'écouter la bande-annonce, et Le Royaume. Ce souvenir d'une ville, vous ne l'avez pas vu?
Non, je ne l'ai pas vu encore.
D'accord. Alors, une part manquante, qu'est-ce que vous
une
nous en dites?
Une part manquante, c'est un film français de Guillaume Sénèze qui est tourné entre la France et le Japon. C'est avec notre ami Romain Duris, Judith Chelma, qui joue le rôle d'une Française égarée au Japon. Et c'est une histoire pas très rigolote, c'est l'histoire de gens qui ont des enfants dans un couple franco-japonais, que ce soit lui. Voilà. Et le Japon est extrêmement dur avec ce qu'on appelle les binationaux.
Et c'est toujours au bénéfice du japonais, hein,
voilà,
ou de la japonaise.
Voilà, donc c'est l'histoire de Romain Duris qui parle japonais en plus, qui aime beaucoup le Japon, donc c'est pour ça qu'il a eu le rôle aussi, et qui vit au Japon, qui fait mille choses, et qui par hasard, il est taxi. Retrouve sa fille dont il cherche à rentrer en contact avec elle depuis des années, qui est maintenant une jeune adolescente. Donc voilà, donc c'est là des retrouvailles quand même assez émouvantes quand même entre un père et sa fille. Donc elle est complètement japonaise, elle parle très peu le français, elle est complètement intégrée à la culture japonaise, et lui il est ravi de retrouver sa progéniture, et est accompagné avec Judith Chelma, qui est dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'elle est maman évidemment
j'allais
d'un enfant marié avec un japonais, et elle ne peut pas voir son fils non plus parce que le papa papa a d'autres convictions pour être
mais il y a beaucoup de cas, hein, voilà. on voit beaucoup de cas. Ça serait les accords internationaux, en fait, pour la carte. Et Judith Chelma, je l'aime beaucoup. C'est vraiment une très grande actrice. Voilà. Alors, nous allons...
Le film qu'on avait également passé en avant-première pour les journées de la rentrée.
Ouais, je me souviens. Alors, on va finir avec Le Royaume, qui est un film de Julien Colonna.
Film de gangster.
De gangster. Ça vient de sortir, là aussi. Et qui assume rapidement d'évacuer toute question politique.
C'est un film intime, évacué, je sais pas, mais c'est un film.
Je lis ce qui est écrit de trois couleurs. Hein.
Voilà, moi je trouve que c'est un film politique parce que ça met en scène des hommes, notamment qui ont choisi de se battre pour leur culture d'une manière sur laquelle je ne suis pas forcément d'accord, c'est-à-dire par la clandestinité, la violence, mais qui sont aussi des êtres humains. Et c'est l'histoire donc d'un clan qui est pourchassé bien évidemment par un autre clan, puis par les autorités. Et ce maître de camp a une fille et a des sentiments bien évidemment par sa fille. Et vous savez, c'est une espèce de descente un peu aux enfers où le clan d'habitude se retrouve dans des villas parce qu'il y a des gens qui les protègent, qui les calment, et puis ça, l'étau finit par se resserrer autour d'eux, et puis ils finissent dans la nature. Donc c'est Le Royaume, c'est un film très puissant, très fort sur la relation père-fille, mais un film aussi extrêmement violent dans les rapports que ces hommes de conviction corses, que j'ai beaucoup de mal à juger, sauf quand on tue les gens, bien évidemment, mais qui ont une profonde attache à leur culture, à leurs racines, à leur pays, et ils défendent ça en priorité. Après, il y a bien évidemment toujours des excès quand on va supprimer les gens, et ça, je le condamne fermement. Mais c'est un film qui est très, 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 très fort. Très,
non, c'est intéressant de voir
on en,
que...
On en sort remué. Ouais. Voilà.
Et je vois qu'il est Julien Colonna, le réalisateur, et le fils de Jean-Jérôme Colonna, le parrain. Et donc de la Corse du Sud. Et c'est étonnant, le scénario est coécrit avec Jeanne Herry. Elle a une très belle écriture, Jeanne Herry.
Qui avait fait il y a quelques années
Pupille,
je verrai toujours vos yeux.
Ça doit être très intéressant aussi au niveau des dialogues, au niveau des... Oui, c'est bizarre qu'on dise que ce n'est pas un film politique. Enfin, chacun voit un peu comme il le ressent. Et de toute façon, vous le recommandez.
Oui, donc alors le 13 novembre. Ils disent que c'est pas un film politique parce que c'est un film de gangster.
Oui.
Voilà, c'est sur le fond et la politique corse. Voilà. Mais c'est un film de gangster, donc ça pourrait très bien, on pourrait très bien faire du copier-coller avec la mafia italienne, avec c'est l'histoire de gangsters qui ont aussi des relations humaines. C'est un film fort.
Fort. Oui, je vois que l'affiche est très belle aussi. Alors, il y a plein de rendez-vous, comme d'habitude, les rendez-vous avec beaucoup de partenariats. On va parler, ce soir, on a parlé de Voyage à Gaza. Demain, le 7 novembre à 20h30, Mississippi Blues.
Mississippi Blues.
Mississippi, c'est pas ce que j'ai dit ?
Non, vous avez oublié un si.
Ah, Mississippi Blues. Donc, de Bertrand Tavernier et Robert Parrish. Donc, les rendez-vous, c'est toujours des séances uniques. Hein. Donc, il faut en profiter. Il y a Raphaël Lemonnier qui vient en parler. Le 8, Madame Soi Seven de Koichi Sato. C'est la semaine japonaise, hein, c'est ça ?
C'est le début de la semaine japonaise en Occitanie. Et c'est la région, la maison de la région qui est juste à côté des arènes, là, qui m'a contacté. Et il y a une relation très forte qui se passe entre la région et le Japon au niveau de la soie.
Oui, bien sûr.
Donc il y a beaucoup de gens et des Japonais sont en train d'essayer de réimplanter le verre à soie dans les régions de Basse-Cévennes, Anduze, Saint-Jean-du-Gard, tout ça.
Bah, quand
parce
qu'eux
en ont besoin énormément pour tous leurs kimonos.
Quand on voit le musée Maison Rouge avec toute Maison la tradition sévenole, c'est important bien sûr de voir ce film Madame Soie Seven, et Koichi Sato sera présent.
Un réalisateur japonais anime, c'est quand même assez rare.
Oui, donc il faut en parler. Et sinon, on va parler... De quoi on pourrait parler aussi ? Cinélus, hein, on avait fait une émission avec Daniel le 18 novembre.
Voilà, avec un film d'André Malraux, L'Espoir. Il y a aussi
Le lycée Saint-Anislas, je vois Voyage à Tokyo.
Voyage à Tokyo, dans le même cadre que la quinzaine du Japon anime.
Présenté par Cécile Cabane, avec la maison des adolescents.
Il y a un documentaire qui s'appelle Transition sous tension, le 12 novembre à 18h30, qui est vraiment un petit film, la réalisatrice sera là, et c'est avec le comité Nîmois du soutien au soulèvement de la terre, vous savez ce que l'ancien gouvernement pourchassait et traitait d'éco-terroristes simplement parce qu'ils défendent la planète. Et donc il y aura une belle session un petit peu pour remettre un peu les pendules à l'heure quant à la défense de l'écologie dans le pays.
Quand on voit ce qui se passe en Espagne, on ne peut que parler du dérèglement climatique et de l'avenir de la planète. Écoutez, comme toujours, beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Nous nous reverrons dans 15 jours où nous reparlerons du film. Oh, je vais y arriver.
Le mois du film documentaire.
Le mois du film documentaire.
Qui commence là, rapidement. Et oui, juste excusez-moi, mais on a quand même oublié quelque chose. C'est notre ami Pierre Carles qui est produit par une boîte de Montpellier, qui vient présenter un film qu'il a mis extrêmement longtemps à finaliser parce qu'il s'est tombé en tournage en plein Covid. C'est son film sur la guérilla des FARC, et qui a un film un peu long, là, vous qui n'aimez pas les films longs, 2h22, et qui vient raconter un petit peu l'histoire de ce mouvement politique.
Non, c'est pas que je n'aime pas, c'est que j'ai du mal à soutenir mon attention pendant... moi, je sais que mon rythme, c'est 1h45. J'avoue que passer 1h45, j'ai un peu de mal, mais vous l'avez expliqué pour Anora, il y a des rebondissements. Merci à vous, Jean-Sylvain, et à bientôt, dans 15 jours.
Merci, Sylviane.